La grande voile, de forme triangulaire, s'établit le long du mât.
Débat et société.
Actualité étudiante et associative.
Du lundi au jeudi, 18h-18h30.
Voguez sur les ondes de l'information locale avec l'Optimiste.
La quasi-quotidienne de Radio Campus Angers.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'Optimiste, votre quasi-quotidienne d'infos sur les ondes de Radio Campus Angers. Aujourd'hui avec nous dans le studio, Isabelle Richard, vice-présidente de l'Université d'Angers en charge de l'égalité, et Sébastien Franzone, trésorier de l'UNEF Angers, également à leur côté Dimitri Marsarc du collectif Luciole. Alors que des croix gammées ont été taguées dans notre ville lors de ce week-end de Pâques, que les collages féministes se sont fait recouvrir d'injures, nous allons revenir avec nos invités sur la montée de l'extrême droite sur les campus universitaires angevins. Tags provocateurs donc, mais aussi racistes, dégradations, insultes, appels à la démission de David Kaila, professeur d'économie à Saint-Serge et membre des économistes atterrés. Tout cela a amené le conseil d'administration de l'Université d'Angers à dénoncer dans un communiqué de presse des actes racistes, antisémites et fascistes. En deuxième partie d'émission, l'Optimiste revient grâce au collectif Luciole et Dimitri Marsarc. Le collectif défenseur des droits LGBTQIA+, au sein de l'Université d'Angers, organise son festival, le festival Version Queer. Un peu de bonheur donc. Attachez vraiment, vraiment, vraiment bien votre gilet de sauvetage aujourd'hui, vous en aurez besoin, car c'est le souffle du fascisme qui fait trembler nos voiles. C'est parti dans l'Optimiste.
Bonsoir, donc je souhaite la bienvenue à Isabelle Richard, vice-présidente de l'Université d'Angers en charge de l'égalité, et à Sébastien Franzone, trésorier du syndicat étudiant UGEAC UNEF à Angers. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on est à quelques jours du deuxième tour de l'élection présidentielle qui voit une nouvelle fois l'extrême droite en lice. Il y a eu des actes racistes, LGBT-phobes et antisémites qui ont touché l'Université d'Angers ces derniers jours. Comme Hugo le disait, il y a eu des tags ouvertement fascistes, des collages d'organisations fascistes ont investi les espaces de l'université. Quels sont donc les moyens pour faire face à la montée en puissance du fascisme et du racisme dans nos universités et nos espaces publics? On va en discuter ensemble. Et je voudrais commencer justement en détaillant un peu ces actes. Il y a eu des croix gammées qui ont été taguées dans les toilettes de l'Université d'Angers, des tracts antiféministes qui ont été distribués par le Rassemblement des étudiants de droite, le RED, pendant le mois du genre. C'est un véritable climat de tension qui s'ajoute à la tension générale juste avant ce deuxième tour. Donc Isabelle Richard, quelle est votre réaction ?
Eh bien, la première réaction qu'on doit avoir devant ces actes, c'est de le dire, de les dénoncer et de les dénoncer comme des actes qui ne sont pas anodins. Le racisme, l'antisémitisme, la LGBT-phobie, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Ça nous a conduit bien évidemment à porter plainte hein, et à rappeler que cette mise en cause de la possibilité de débattre de tout à l'université n'est pas acceptable. Et qu'on peut craindre que dans certaines options, elles ne deviennent notre lot habituel et qu'il est notre responsabilité de le dire avant que ça ne se produise.
Et d'ailleurs, Sébastien Franzone, il y a eu aussi des étudiants qui ont été victimes d'intimidation lors d'un débat organisé pour les élections présidentielles. Et le RED, donc le Rassemblement des étudiants de droite, a aussi dégradé vos locaux où des autocollants de l'association fasciste Dissoute Alvarium ont été collés. Et vous êtes un syndicat étudiant, donc comment vous vous positionnez face au RED qui a également un réseau d'étudiants ?
Notre position par rapport à ça, elle est plutôt simple. Je veux dire, les autocollants qui sont collés sur nos locaux, c'est pas nouveau. Même si cette année, avec les présidentielles, il y a eu beaucoup plus d'activités de ce genre, c'est quelque chose que je vois depuis que je suis à l'UNEF, c'est-à-dire ça fait 3 ans. On a toujours été un peu la cible des différents groupuscules de droite étudiants. Il y a eu la cocarde, il y a eu l'UNI, c'est autre chose. Mais oui, voilà, le RED. Aujourd'hui ils font ça. Après je pense pas que le RED par exemple c'est pas vraiment des étudiants, c'est plus une nouvelle antenne de l'Avarium. C'est plus une façon pour eux d'aller trouver un autre moyen de militer autre part.
Et pour autant ils s'appellent le RED, donc le réseau d'étudiants de droite.
Oui, mais c'est pas une association, par exemple nous on est une association labellisée par la fac, On a des statuts. Eux, ils ont pas de statut en préfecture. C'est pas une vraie association. C'est plus un groupuscule qui fait des trucs et qui a un nom, quoi.
Et comment vous vous positionnez face au fait qu'eux aussi soient étudiants? Comment est-ce que... Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous cohabitez sur les campus avec ce réseau?
Par rapport à ça, je veux dire, des étudiants qui sont de droite, de droite, c'est pas de souci, mais des étudiants qui sont d'extrême droite.
En plus, ils camouflent bien le fait qu'ils sont d'extrême droite avec ce nom qui pourrait amener à imaginer qu'ils sont d'une droite modérée et républicaine.
Oui, ils ont un côté attractif pour les gens qui se disent qu'ils sont pas de gauche, qui trouvent que, par exemple, nous à l'UNEF, on aime trop l'immigration et les LGBT, tout ça. Je pense que c'est des gens... déjà, moi, j'ai jamais eu à faire face à ces gens sur la fac, à part aux élections centraux. C'est la première fois que je les ai vus, des militants de ce groupe, parce qu'en fait, ils sont pas présents sur la fac. Ils sont là, ils font des collages le soir, ils collent leurs autocs le soir, et ils taguent les toilettes. Donc, c'est des gens qui agissent discrètement, parce que le rapport de force, en fait, il est pas eux, il est à nous. Eux, ils doivent être une dizaine sur Angers. Nous, on a 105 adhérents. On a à peu près la moitié qui sont des militants actifs. Je veux dire, les étudiants en général, même s'ils n'aiment pas l'UNEF, ou même s'ils sont juste hors de ces choses-là, ils vont pas être d'accord avec leurs revendications. Parce que forcément, je veux dire... je me rappelle des tracts qu'ils avaient distribués pendant les élections centraux, qui étaient des trucs totalement délirants sur un mélange en fait le pass sanitaire, les féministes et l'islam, je ne sais pas. C'est des choses qui sont tellement déconnectées du réel que en fait ça ne touche personne à part des gens qui sont perdus.
Et vous, Isabelle Richard, quand vous avez vu circuler ces tracts en tant que vice-présidente en charge de l'égalité de l'Université d'Angers, est-ce qu'il y a moyen de les interdire, de limiter leur distribution, de limiter ces tractations-là?
Ça dépend évidemment ce qu'il y a sur les tracts. La distribution de tracts n'est pas interdite à l'université. Il n'est pas question qu'elle le soit. Si les tracts comportent des propos racistes, antisémites ou LGBT-phobes, les tracts comportent des propos délictueux. Il y a un moment où le guide, ça doit quand même être la loi. J'aurais peut-être vous citer un petit peu ce qui a été tagué sur les murs de l'université la semaine dernière. Parmi les tags, on trouve des discours qui sont clairement des discours masculinistes. Alors, je suis désolée s'il y a des oreilles sensibles, mais on trouve couilles molles, bandées raides. On trouve des éléments qui sont clairement dans un discours antiféministe et directement agressif. On trouve des choses étonnantes. On trouve « Ayatollah de la tolérance, quitter la France ». C'est intéressant comme concept. Donc, effectivement, autant je partage tout à fait l'avis de Sébastien sur le fait que ces étudiants sont peu nombreux, mais si ce sont des étudiants d'ailleurs, ou ces personnes sont probablement peu nombreuses, mais néanmoins, les propos qu'ils véhiculent sont des propos qui sont organisés, qui sont en résonance avec l'histoire et qui sont graves. Et c'est l'élément qui nous a conduit à les citer dans la motion qui a été votée à l'unanimité au conseil d'administration et à faire le lien, comme vous le rappeliez en début d'une émission, avec le fait que l'extrême droite soit à nouveau au second tour des élections présidentielles.
Oui, et d'ailleurs, à ce propos, vous disiez tout à l'heure aussi que vous avez porté plainte pour dégradation de biens publics, mais il existe aussi le délit d'incitation à la haine, et vous avez collé au même endroit d'un de ces tags ouvertement racistes, justement la phrase « l'incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination raciale est un délit puni d'un an de prison et 45 000 euros d'amende ». Donc, est-ce que vous voulez insister sur ce délit d'incitation à la haine? Est-ce que vous allez porter plainte pour ça aussi?
Alors, il faut rendre à César ce qui est à César. La proposition, effectivement, de ce contre-collage, si on peut appeler cela comme ça, elle est venue des collectifs étudiants et en particulier de Luciole, et on s'y est très volontiers associés. Ces éléments ont effectivement été signalés dans la plainte qui a été déposée.
Et vous avez parlé aussi de ce communiqué, de cette motion qui a été votée à l'unanimité par le conseil d'administration de l'université d'Angers. Donc je cite, vous invitez la communauté universitaire à utiliser son vote en pesant la gravité du moment, alors que le pays voit une nouvelle fois, comme on l'a dit, l'extrême droite parvenir au second tour. Donc vous appelez à voter pour Emmanuel Macron, même si son programme prône une libéralisation de l'université.
Il y a à l'université une diversité de positions. Il y a plus de 20 000 étudiants, plus de 2 000 salariés. Tout ce monde-là ne pense pas pareil, et heureusement. Et tout ce monde-là n'a certainement pas voté de la même façon au premier tour. Et là aussi, heureusement, l'université, c'est un lieu de pluralité des opinions. Le problème, c'est qu'il y a parmi les deux candidats au second tour une candidate dont l'objectif n'est pas que se maintienne la pluralité des opinions. Et donc, il y a effectivement une situation dans laquelle l'université ne pourra pas continuer à fonctionner comme elle fonctionne, parce que la liberté académique ne sera pas respectée, parce qu'on ne pourra pas continuer à avoir des équipes de recherche qui travaillent sur le genre. Donc, il y a un moment, il faut faire les priorités. Tout le monde n'est sûrement pas d'accord à l'université avec le programme d'Emmanuel Macron, mais l'urgence du 24 avril, c'est peut-être pas ça.
Tandis que le gouvernement d'Emmanuel Macron taxait les universités d'islamo-gauchisme.
On s'est exprimé en son temps sur ce sujet, où on trouve effectivement pas que ces propos aient été particulièrement utiles à la communauté universitaire. Ils ont inquiété un certain nombre de collègues dont les sujets de recherche étaient directement mis en cause. Néanmoins, à un moment, et en particulier le 24 avril, on ne peut pas renvoyer dos à dos les deux candidats en considérant que le danger qu'ils portent pour l'université est identique. Il n'est pas identique, et c'est notre responsabilité de le dire.
Et Sébastien Frinzone, l'UNEF aussi est signataire de cette motion. Est-ce que vous avez appelé à agir vos adhérents, les étudiants, vous appelez à la mobilisation par exemple, comme ça a été le cas à l'Université de la Sorbonne à Paris ?
Alors, par rapport aux mobilisations, il y avait une date nationale qui était samedi dernier, il me semble. Bon, nous, on n'a pas pu trop le faire à Angers pour des problèmes qui sont juste qu'on est des êtres humains et on était très fatigués parce qu'on sort d'un congrès du FEC qui a été demandeur aussi. Mais par rapport à la motion, par exemple, c'est un de nos élus au CA, Pacha Akin, qui est le président de l'UNEF Angers. Pacha avait écrit une motion sensiblement pareille, et du coup, ils l'ont fusionné. Et c'est pour ça qu'on est très heureux qu'elle ait été votée à l'unanimité, parce que c'est important quand même qu'une université appelle tous les étudiants, pas que les étudiants, justement aussi les professeurs, l'administration, les travailleurs, à prendre conscience de la gravité du moment. Et moi, je voudrais revenir sur le fait de... On n'appelle pas vraiment à voter pour Macron. On appelle plus à prendre le butin de vote qui nous reste pour battre l'extrême droite. Et de toute façon, nous aussi, on a eu plein de problèmes pendant le mandat de Macron. Parce que les étudiants ont rarement autant été victimes des lois libérales de l'université, de l'enseignement supérieur. Mais pour autant... comme disait Madame Richard, il y a une différence extrêmement grande entre Macron et Le Pen, car même si l'un est libéral et nous fait vivre des temps extrêmement durs, l'autre nous fera vivre des temps bien pires. Et moi, je vais vous dire un truc personnel. Moi, je suis argentin, je suis en Argentine. Mes parents, ils ont grandi dans leur enfance pendant la dictature. Et ils parlaient rarement de ces temps-là parce qu'ils étaient enfants. Mais c'était terrible. Et moi, je serais prêt à voter pour n'importe qui si c'est pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir.
C'est un choix de société, en fait, ce que vous appelez à faire. Parce que aussi, comme le disait Madame Richard, l'extrême droite, ses valeurs et ses idées constituent une menace pour le service public de l'enseignement supérieur de la recherche, comme on le lit aussi dans le communiqué. Vous vous associez donc à ce choix de société de voter contre l'extrême droite.
Oui, totalement. Pardon.
Comment est-ce que vous appelez à la mobilisation ? Est-ce qu'il y a une mobilisation qui est nécessaire au-delà du bulletin de vote face... Premièrement, à la montée de l'extrême droite de manière générale dans notre société, mais également à l'université. Quels sont les moyens d'action, à part, puisqu'en fait, ce dépôt de plainte, là, il va concerner, c'est un dépôt de plainte contre X, je suppose. On acquiesce de la tête dans le studio.
Oui, pardon.
donc, en fait, comment est-ce qu'on agit pour retrouver les personnes, pour éviter ça? Quels sont les leviers, les moyens d'action pour que tout cela cesse?
Alors, retrouver les personnes, c'est... je crois, pas la tâche de l'université, c'est celle de la police et de la justice. On vit dans un pays qui a des institutions et auxquelles nous faisons confiance. C'est bien la raison pour laquelle nous avons porté plainte. Après, le travail de l'université, c'est aussi une forme de travail préventif, si je peux dire, où c'est de promouvoir, et on le fait au travers de nos actions, le mois du genre par exemple, de promouvoir des réflexions, des actions qui permettent à la diversité des points de vue de s'exprimer. Encore une fois, c'est normal qu'il y ait des points de vue différents dans une université, mais tous les points de vue ne peuvent pas être renvoyés à égalité. Il y a les points de vue qui respectent ceux des autres, et puis il y a les points de vue qui menacent le droit des autres à avoir le leur. Et ça fait une différence qui est très importante.
Et quel est le climat qu'on respire à l'université en ce moment ? Est-ce que vous avez pu échanger avec des étudiants peut-être inquiets par rapport à tout ce qui s'est passé ? Les deux, même Sébastien, avec vos adhérents.
Mais même Dimitri du collectif Luciol, je suppose que c'est forcément des choses qui doivent à chacun et chacune vous arriver aux oreilles.
Comment se sentent les étudiants ? Je ne sais pas très bien. Peut-être qu'ils sont effrayés, peut-être que certains ont envie de se mobiliser eux aussi. Je sais que lors du FECRE, par exemple, il y a ce que nous on appelle dans le jargon des FAF, qui sont de la France aux Français en fait, qui sont venus arracher un drapeau LGBT et s'enfuir en courant. Je ne sais pas si ça effraie plus les étudiants ou si ça leur donne envie de réagir. Chacun réagit selon comme il le peut, comme il le souhaite. Mais je trouve qu'en ces temps d'élection présidentielle, certains étudiants qui ont les pensées les plus extrêmes se trouvent galvanisés par la banalisation des discours zémouristes et lepénistes qu'on entend dans les médias.
Oui. Et donc il y a un climat de peur qui s'installe parmi la communauté étudiante.
Je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y a un climat de peur à l'université, mais ce n'est pas quand l'extrême droite a installé un climat de peur qu'il faut réagir. C'est bien avant. Et l'histoire a montré que c'est lors des premières manifestations, c'est au moment effectivement où des propos racistes deviennent possibles, où des collages sexistes deviennent envisageables. C'est à ce moment-là qu'il faut réagir. Si on laisse le climat de peur s'installer, il est trop tard. Donc non, il n'y a pas de climat de peur à l'université d'Angers, je ne peux pas laisser dire ça. Mais il y a des manifestations qui sont inacceptables et notre tolérance sur ces propos racistes, antisémitiques ou LGBT-phobes est exactement égale à zéro.
Et donc, ce qui mène à vous demander, Sébastien, Dimitri, mais aussi à vous, à Isabelle, Richard, comment vous allez compter agir les 5 prochaines années, quel que soit le résultat de ce deuxième tour, pour limiter la présence de l'extrême droite à l'université, pour limiter ces propos absolument intolérables, en nom des collectifs peut-être étudiants?
Nous, au collectif Luciol, je sais qu'on manifestera toujours pour la promotion des droits LGBT. Dans l'hypothèse même où l'extrême droite arriverait au pouvoir, les personnes LGBT ne vont pas disparaître en réalité. Donc il faudra toujours se mobiliser pour offrir de la représentation et de la visibilisation, mais certainement peut-être plus que les temps passés. Mais ce sera certainement pas une diminution de notre voix. Ça, certainement pas, jamais.
À l'UNEF ?
À l'UNEF, de toute façon, moi je me doutais peu, j'avais peu de doutes sur le second tour avant le mois dernier, quoi. Mais pour nous, on restera sur ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire militer sur la fac, convaincre les gens que notre discours c'est le plus important, convaincre les gens que se mobiliser pour que nos thématiques, que ce soit sur la précarité au logement, la précarité alimentaire, pour nous, la sélection à l'université, les thématiques qui touchent les étudiants, parce que l'islam, le voile, l'immigration, vous parlez à un étudiant, il s'en fiche. C'est ces thématiques-là qui sont importantes pour nous, et c'est l'important, ce sera de se mobiliser tout le temps, dans quelles que soient les manifestations. De toute façon, nous, on est antifascistes, on est antisexistes, on est... On essaye de travailler avec le plus de monde possible parce qu'on est l'Union nationale des étudiants de France et on essaye d'aider le plus grand nombre. Donc, comme d'habitude, nous, on va continuer à travailler à militer sur la fac, à convaincre les étudiants, et voilà.
Une dernière question peut-être pour conclure. Est-ce que vous avez senti un soutien de la part de la communauté universitaire angevine? Donc je pense à tous les campus, notamment celui de l'Université catholique de l'Ouest, ou bien des écoles indépendantes concernant les actions qui ont touché l'Université d'Angers. Isabelle Richard.
Je crois qu'il n'y a pas de particularité de la position de l'Université d'Angers et qu'effectivement, nos positions, elles sont largement partagées par d'autres acteurs de l'enseignement supérieur à Angers. Et puis, on sait bien que quand les uns seront attaqués, les autres ne seront pas loin derrière. Pour répondre peut-être simplement à votre question de tout à l'heure, moi, aujourd'hui, on est jeudi soir, je pense. Je refuse d'envisager les choses, quelle que soit l'issue du second tour. Pour l'instant, l'objectif, c'est que l'issue du second tour, elle permette à tout le monde de continuer à travailler et à étudier ensemble. Et il n'y a pas deux options pour garantir cette issue-là, il n'y en a qu'une.
Merci beaucoup à Isabelle Richard. Je le rappelle, vous êtes vice-présidente de l'Université d'Angers en charge de l'égalité. Merci également à Sébastien Franzon, trésorier au syndicat UNEF-UGEAC à Angers. Merci aussi à Dimitri Marsac qui va rester avec nous pour la deuxième partie de l'émission. Pour le rappeler, l'Université d'Angers a été la cible d'actes ouvertement racistes, LGBT-phobes et fascistes où le rassemblement des étudiants de droite est impliqué. Le CA de l'Université d'Angers a donc condamné ces agissements et appelé dans une motion à utiliser son vote en pesant la gravité du moment, alors que la France voit une deuxième fois l'extrême droite au deuxième tour des élections présidentielles.
On se rafraîchit la tête avec une petite pause musicale sur Radio Campus Angers.
On se retrouve dans l'Optimiste sur Radio Campus Angers. On vient d'écouter Ici et lui, on est tous pareils. On retrouve tout de suite Sophia avec Dimitri du collectif Luciole.
Oui, bonsoir Dimitri, tu étais déjà avec nous tout à l'heure. Et on continue dans l'actualité du monde universitaire comme tous les jeudis dans notre Optimiste. Puisque tu es ici ce soir pour nous présenter la deuxième édition de Vécu, version queer. C'est un festival qui se compose de deux moments phares. La projection de deux films d'Alexis Langlois, réalisateur de production queer, le mardi 26 avril au 400 coups. Et une soirée en musique, drag show et danse au 122 le jeudi 28 avril. Alors, pour commencer, la dénomination queer désigne l'ensemble des minorités sexuelles et de genre, des personnes ayant une sexualité ou une identité de genre différente de l'hétérosexualité ou de la cisidentité. Comment alors ce festival reflète une volonté de représentation de tout ce spectre de minorités de genre ?
Il y a beaucoup trop d'identités diverses et variées au sein de la communauté LGBT pour oser vouloir toutes les représenter. Mais on trouvait que le vécu version queer était donc un joli jeu de mots avec le vécu en fait tout simplement des personnes. Mais je pense qu'il y a, notamment à Angers, faire venir des drag queens, des drag kings, et il y a aussi l'appellation drag queer, ça se fait pas beaucoup à Angers. Il me semble pas que ça s'est déjà beaucoup fait. Donc on avait la volonté d'offrir de la représentation à ces personnes-là, et aussi à ce réalisateur que tu as mentionné, oui, Alexis Langlois, qui est une personne qui fait des petites productions, des courts-métrages. Ce ne sont pas des longs-métrages. Je pense que s'il le voulait, il se lancerait bientôt dans la production d'un long-métrage. Mais voilà, mettre en lumière des personnes qui sont peut-être invisibilisées par les gros médias qui mettent la caméra plutôt sur toujours les mêmes représentations. Les personnes gays, les personnes lesbiennes, les personnes trans de plus en plus. Là, on a la volonté d'offrir à d'autres personnes cette visibilité.
Oui, et d'ailleurs, ce réalisateur, j'ai lu, il est déjà très connu alors qu'il n'a pas encore réalisé de long métrage. Et vous avez choisi notamment « Dès la terreur, mes sœurs » et « Les démons de Dorothy », ces deux courts-métrages donc queer. Et pourquoi ces deux-là en particulier ?
Alors, ce sont tout bêtement ces deux dernières productions. « De la terreur, mes sœurs », c'est un petit court-métrage donc, de 30 minutes où c'est donc Kaltoum, la personnage principale, et ses copines qui essuient encore une fois de plus des remarques transphobes. Et donc là, elle décide cette fois-ci de ne pas laisser passer ça et faire une espèce de revenge movie où elles vont se venger des personnes cis qui les oppressent. Et Les démons de Dorothy, c'est donc une réalisatrice qui a l'habitude de ses productions LGBTI+, mais à qui on lui dit, bon écoute, au bout d'un moment, il faut peut-être faire des films un petit peu plus sérieux, parce que ça ne rapporte pas d'argent. Et donc, comme elle est très triste de cette nouvelle, elle se réfugie dans sa série doudou, on va appeler ça comme ça, et elle s'imagine faire partie de cette série.
Voilà. Et d'ailleurs, ces deux productions font toutes les deux penser, comme tu le disais aussi, au fait que la représentation de personnes queer à l'écran, c'est encore très peu fréquente. Et donc, ces productions sont aussi des actes politiques, parce que quand elles sont représentées, elles sont parfois aussi mal représentées. Donc, en particulier de la terreur, mes sœurs, c'est des jeunes femmes, comme tu le disais, qui imaginent des expéditions punitives. Donc, vous avez, j'imagine aussi, pensé au fait du male gaze, du fait que ces représentations-là sont toujours sous le regard des hommes.
Oui, absolument. Mais alors, c'est un débat qui est très présent en ce moment dans le milieu cinématographique, justement. Male gaze, pour expliquer, c'est donc, oui, le regard masculin sur des productions qui, en fait, ne le méritent pas. C'est amusant parce que, oui, moi je trouve, à titre personnel, qu'il y a de plus en plus de représentations au cinéma, mais oui, elles ne sont pas forcément positives. Et encore, si on gratte un petit peu, il n'y a pas toujours énormément de représentations. La dernière fois, je cherchais à diffuser un film sur des personnes noires homosexuelles. Ben, je suis désolé, j'en ai trouvé qu'un seul. Et celui-là date de 2016, c'est Moonlight. Donc tout le monde voit à peu près ce que c'est, ce film. Mais en fait, après, on a énormément de mal trouvé au cinéma, pas dans les séries, au cinéma, des représentations, si on pousse un petit peu le schéma, des représentations intersectionnelles, de personnes qui subissent plusieurs discriminations. Dans les séries, je trouve que ça avance sérieusement, véritablement. On se pose la question de offrir des rôles à des personnes concernées, des personnes trans qui joueraient des personnes trans. Mais au cinéma, on rame un petit peu, quoi.
Et d'ailleurs, à propos de la démarche intersectionnelle, pour la soirée du jeudi 28 122, vous avez invité Sarah Azeg, qui est une performeuse queer et handicapée. Donc, vous cherchez aussi à sensibiliser justement à l'imbrication des oppressions à travers ces performances, ces soirées.
Oui, absolument. Alors, pour te corriger, c'est un performeur, ouais. Et oui, bien sûr. Alors, on peut croiser tout type de discrimination et montrer. Sarah va justement faire une performance pour parler des questions de handicap. Et j'ai toute confiance en lui pour qu'il le fasse très bien sur ça, pour parler de ceci et de sa transidentité, des luttes queer, etc.
Et les autres performeurs et performeuses sont par exemple Chlamydia, Gabriel Cadabra, Pink Love et d'autres. Donc vous avez aussi voulu promouvoir des artistes de la région?
Oui, alors oui, absolument. Alors j'ai eu un contact qui m'a renvoyé vers un autre contact et je ne crois pas qu'il y a un grand éventail de personnes drag à Angers, mais de contact en contact, on arrive à Nantes et à Rennes. Alors ma priorité aussi, c'était de visibiliser des personnes drag qui ne sont pas, bon, qui sont de la région, mais qui ont des attaches un peu plus lointaines que Angers en réalité.
Et donc pour la soirée au 122, il y aura des performances, mais aussi de la danse, j'ai lu.
Oui, alors il y aura ce qu'on appelle du lip-sync, ce qui est donc du playback. C'est lip-sync qui est la traduction de, je vais pas y arriver, mais enfin, synchroniser.
Synchronisation des lèvres.
Oui, voilà, c'est ça, du playback, tout, voilà.
Synchronisation des lèvres.
Voilà, du lip-sync. de la danse, il y aura aussi une lecture performée, donc ce qu'on disait tout à l'heure, ce que Sahara va lire un texte engagé. Il y aura de la magie, Gabriella Cadabra va nous faire un show avec de la magie, défilés, enfin bref, tout plein de choses variées.
Donc c'est vraiment très varié, ça donne envie de venir, non seulement le jeudi 28, mais aussi le mardi 26 à 20h au 400 coups,
oui,
pour assister à deux projections d'Alexis Langlois dans le cadre du festival Vécu, version queer du collectif Luciole de l'Université d'Angers. Je te remercie à Dimitri pour être venu en parler. Je rappelle aussi que vous pouvez acheter vos billets en pré-vente à 3€ sur la page Hello Asso du collectif Luciole pour la soirée au 400 coups. Et pour le 122, c'est à prix libre. Merci.
Merci beaucoup, Dimitri, d'avoir répondu à nos questions. Et merci à toi, Sophia, toujours jugée sur le mât, telle une vigie, le regard porté vers l'horizon de l'information sur le 103 FM. Tout de suite, l'optimiste continue avec un reportage de Radio Neptune, membre comme nous de la FRAP, la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire. Il nous emmène à la rencontre de Valorieux, une entreprise qui va revaloriser le plastique de fil et de pêche usagés.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Les filets de pêche usagés représentent près de 10% de la pollution plastique retrouvée au fond des océans, soit 800 tonnes par an pour la France. C'est en 2017 que l'Orgendais a eu l'idée de créer Valorieux afin de valoriser ces filets de pêche usagés. L'entreprise est basée à Lille-Dieu.
J'avais été avec mon père sur une partie de pêche à la Morgate, et puis je m'étais demandé comment étaient recyclés ces filets. J'avais une fibre écologique déjà. Les filets viennent de l'Île-Dieu par 4 à 5 bateaux îlets. Ils viennent aussi du Croisic, de La Rochelle et aussi à Saint-Gilles-Croix-de-Vie maintenant. Ils sont nettoyés à la main, lavés avec l'eau, récupérés l'eau de pluie que l'on arrive à bien nettoyer avec un karcher par exemple. La pluie souvent fait le nécessaire à l'extérieur, on les laisse vraiment à l'air libre. Et puis ensuite, ils sont broyés finement plusieurs fois pour être ensuite transformés en granulés. C'est une méthode assez connue pour l'extrusion de la matière plastique. Et puis ensuite, on les change en injection dans des moules ou alors pour créer de la matière pour impression 3D. Les bobines, c'est l'équivalent de la matière première pour faire des impressions en 3D. Ou alors, on en crée des objets du quotidien, effectivement. La première idée était plutôt de créer quelque chose de circulaire, donc de la mer à la mer, de la mer à l'assiette même, puisque c'est une assiette à huîtres. Ensuite, pour l'idée du pêcheur, donc toujours du pêcheur professionnel au pêcheur plaisancier, créer des mousquetons, des émerillons pour les casiers par exemple. En plastique recyclé, il y en a de plus en plus. Par contre, du plastique venant d'un filet de pêche retransformé, ça n'existait pas encore. Et les partenaires avec lesquels je travaille pour les moules d'injection, pour les pièces, sont ravis d'avoir une matière recyclée.
As-tu de futurs projets pour Valérieux ?
Oui, alors j'espère que les îlets pourront profiter de cela cet été. J'ai l'intention de créer un objet du quotidien qui n'est plus tout à fait au goût du jour, mais qui va le revenir.
Est-il possible de recycler la matière des filets pour fabriquer d'autres filets ?
Alors, j'aimerais dire oui, on y a pensé, sauf que la résistance des filets, les pêcheurs sont à même à le dire, mais on a besoin d'un filet 100% résistant. Et quand on transforme une matière plastique, on perd 20%, voire plus. Donc, il faudrait toujours réinjecter un matériau noble, entre guillemets, plutôt vierge, ce qui va à l'encontre de l'écologie, entre guillemets, si on reprend toujours de la matière vierge. Et puis surtout, est-ce que les pêcheurs seraient prêts à utiliser un filet qui n'a pas la même résistance qu'un filet original ? Je ne veux pas m'engager à leur proposer quelque chose qui ne fonctionnerait pas. En revanche, il y a de superbes réalisations en Bretagne notamment sur des filets biodégradables ou des nouvelles formes de filets.
Une bobine de fil représente combien de mètres ou de kilomètres de filets transformés ?
Un filet, c'est à peu près 3 kg, donc je vais parler en poids. Puis ça dépend aussi des filets, mais on va dire 3 kg. Une bobine, c'est à peu près 750 grammes à 1 kg.
Pour le moment, quelle masse de filets as-tu transformé depuis le début de l'activité au printemps 2021 ?
Alors transformé, tout n'est pas encore transformé, mais j'ai reçu à peu près 2,5 tonnes de La Rochelle par bateau à voile qui ont été amenées. Et puis à Lisieux, on compte plutôt ça en big bag, donc je dirais aller moins d'une tonne pour l'instant, mais c'est déjà beaucoup.
C'est combien de temps de recherche et de développement ce projet Valérieux ?
Alors il y a eu 2 années avec une étude de faisabilité technico-économique et puis une étude de marché réalisée en partenariat avec l'ICAM, l'Institut catholique des arts et métiers de Nantes. Ça a été vraiment 2 années charnières puisqu'il a fallu prouver qu'on pouvait transformer un filet de pêche pour en faire un objet ou de la bobine 3D. Et puis ensuite c'est vraiment les tests de réalisation qui prennent aussi une bonne année. Donc là on est dans la 4e année bientôt. Donc c'est plutôt encourageant.
Valérieux s'inscrit également dans une démarche d'insertion sociale.
Alors, je ne sais pas si je pourrais dire que j'ai une démarche, en tout cas j'y crois. J'ai vraiment eu la chance et le plaisir de travailler avec Julien et Manuela pendant presque 2 mois l'année dernière, qui font partie du CCAS. Dans une démarche de stage en immersion, vraiment, ils ont pu toucher le filet, le transformer aussi en partie. Et je trouve que quel que soit l'envie, le profil ou les attentes des gens, c'est toujours intéressant de pouvoir créer un emploi aussi divers qu'accueillant, et j'espère qu'ils auront vraiment profité de cela. Donc avec plaisir s'ils veulent revenir et si je peux les embaucher un jour, bien sûr.
La devise de Valérieux, c'est préserver, valoriser, innover. Les créations sont disponibles au magasin de pêche Lambrin à Lisieux et sur valérieux.com. Laurent, Radio Neptune FM, Lisieux.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
C'est la fin de cet Optimiste. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour voguer sur les flots de l'actu locale. Ce soir, sur le 103, retrouvez votre soirée électro avec Technis. Puis ce sera au tour ensuite de DJ Quinx de se coller aux platines. Et surtout, n'oubliez pas, vraiment, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Vous pouvez réécouter l'émission sur le www.radiocampusangers.com.